Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition du journal sur Radio Kapi. Commençons par le titre. Un convoi militaire ougandais UPDF attaqué par les miliciens Kodeko à Nokia. 18 blessés dont 11 soldats ougandais et 7 miliciens avec un décès probable. Le service de sécurité rapporte que plusieurs civils ont fui la région. Retour inattendu des motocyclistes au centre-ville de Lubumbashi. La population dénonce le laxisme des autorités. Une anarchie qui dépasse les limites fixées par l'autorité urbaine. Le nouveau maire promet quant à lui de rétablir l'ordre. Découvrez Laetitia Kabbala, entrepreneur inspirante de Kinshasa et directrice générale de Rainbow Poto Poto. Elle fabrique une bouillie nutritive et thérapeutique à base de maïs, millet, soja et blé. À l'occasion du mois de la femme, elle nous parle de ses activités et de son entreprise dans un entretien exclusif avec Radio Kapi. Ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle. Commençons par la province de l'Ituri. Un convoi militaire de l'armée ougandaise UPDF est tombé samedi dans une embuscade tendue par des miliciens de la Kodeko à Nokia, dans les territoires de Mahagi. Des sources sécuritaires locales rapportent un échange de tirs entre les deux parties qui a duré plusieurs heures, provoquant un mouvement des populations dans la zone. Parallèlement, un autre échange de tirs a été signalé dans la nuit de samedi à dimanche dans la cité de Bethlehem à Fataki, dans les territoires de Djougou. Compte rendu de Ezekiel Mousalia depuis Bounia.
Plusieurs sources locales confirment un renfort militaire des troupes ougandaises en direction de Bethlehem après des affrontements samedi avec la milice Kodeko dans la région de Fataki à 80 km de Bounia dans le territoire de Djougou. Les militaires ougandais ont fait face à une résistance farouche des miliciens à Nyoka dans le territoire de Mahagi, précisément vers Ngiri et Turbine à environ 10 km de Nyoka centre. 5 miliciens Kodeko sont blessés tandis que du côté des UPDF, quelques munitions ont été emportées par les assaillants, confirment des sources coutumière locale. Cependant, des tweets citant des officiers de l'armée ougandaise évoquent un bilan de plus de 200 miliciens Kodeko tués depuis le début de ces affrontements il y a quelques jours. Des informations difficiles à vérifier. Des combats ont encore repris la nuit dernière dans la cité de Bethlehem entre les deux parties. Pendant ces temps, de nombreux habitants demandent au gouvernement congolais d'intervenir pour faire arrêter cette hémorragie des violences qui implique un pays étranger contre un groupe armé local sur les sols congolais. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des autorités de l'état de siège en Ituri. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, les deux groupes miliciens qui sèment la terreur dans les quartiers Kamahoumé pendant plusieurs semaines se sont retirés de la zone. Selon la société civile du groupement Baswara Madiwe, cette décision a été prise après un dialogue organisé vendredi avec le leader de ce groupe armé, souvent en conflit pour le contrôle de la région. Cette situation avait provoqué le déplacement de nombreuses populations vers des zones considérées comme plus sûres. Justin Kavalami, président de la société civile des Baswara Madiwe, appelle ainsi les jeunes à se désolidariser des groupes armés et invite les parents à sensibiliser leurs enfants. Il s'explique au téléphone de Guylaine Kassassia.
Nous pouvons dire que c'est la fin de la crise sécuritaire dans le groupement Baswara Madiwe, précisément dans les quartiers Kamahoumé. La crise était due à un affrontement entre deux groupes miliciens, et Wazalendo IPLC et les Wazalendo des FARC. Mais vendredi, nous avons procédé à une voie de dialogue des deux côtés. La population peut, sans aucune inquiétude, regagner les quartiers Kamahoumé. Parce qu'aujourd'hui ou demain, les voleurs peuvent aussi en profiter. Seulement, nous demandons à tous les jeunes du groupement Baswara Madiwe de se désolidariser de tout groupe armé. Parce que l'objectif de la population dans le groupement Baswara Madiwe est de vivre sans aucun groupe armé. À tous les parents de conscientiser leurs enfants. Donc, à ce moment que le quartier est désormais libre, à tous les services de sécurité, nous leur demandons chacun de faire ce qui lui concerne.
Dans la province du Tanganyika, le commandant du 22e groupement naval a procédé le vendredi dernier à la mise à flot de 10 embarcations sur le lac Tanganyika. Selon lui, l'objectif est de renforcer les patrouilles sur les lacs. Ponle Munanga nous fait le point.
Le lancement de ces embarcations motorisées et armées intervient après quelques mois de travaux techniques amorcés à la 221e base navale de Kalemi, rapporte les services de communication et d'information des forces armées. Le commandant du 22e groupement naval appelle les éléments de la force navale à une bonne gestion de ces vedettes. Le contre-amiral Luc Bakole Nyengele a donné des consignes à observer durant les patrouilles sur le lac Tanganyika. Il annonce aux patrouilleurs qu'ils devraient éviter des obstacles sur l'eau en conduisant ces embarcations. Signalons que lors du lancement, une randonnée sur l'eau de plus de 45 km a été effectuée pour s'assurer du bon fonctionnement de ces matériels qui viennent d'être réhabilités. Cette action entre dans le cadre de la sécurisation de la province du Tanganyika et consiste aussi à rassurer la population, indique les services de communication et d'information des forces armées. Rappelons que les FRDC ont organisé une marche d'endurance dans la ville de Kalemie il y a quelques semaines.
Comme mentionné dans les titres, le retour inattendu des motocyclistes au centre-ville de Lubumbashi a surpris les habitants. Ceux-ci, impuissants face à la situation, déclarent que le motocycliste dépasse les limites fixées par l'autorité urbaine pour faciliter la circulation. Le nouveau maire rappelle que l'interdiction des taxis-motos au centre-ville est toujours en vigueur et que les concernés doivent s'y conformer. Jean Gandou pour les détails.
C'est une véritable anarchie qui règne au centre-ville de Lubumbashi. Chassé le naturel, il revient vite au galop. Les motocyclistes, qui pourtant sont interdits d'accès dans cet espace, reviennent en force. Interrogés, certains d'entre eux indiquent que cette mesure avait été prise par la maire adjointe qui assurait l'intérim du maire élu vice-gouverneur du Haut-Katanga. Et comme il y a un nouveau maire, cette interdiction tombe. C'est ainsi que le vendredi dernier, les motocyclistes sont allés en masse rencontrer la nouvelle autorité urbaine à ces sujets. Patrick Afouimbi leur a souligné que cette mesure existait depuis longtemps et donc tout le monde devait la respecter. Visiblement, le maire de Lubumbashi a prêché dans le désert puisque sur le terrain, rien n'a changé, surtout aux heures vespérales. Le désordre autrefois décrié refait surface. Certains louchois rencontrés ce samedi dans la soirée au centre-ville dénoncent cet état des choses et indiquent que ce sont ceux qui sont appelés à faire appliquer cette interdiction qui ont failli à leur mission. D'après eux, il ne revient pas au maire de descendre dans la rue pour mettre la main sur les contrevenants. Entre-temps, Patrick Afouimbi s'est dit déterminé à remettre de l'ordre et à redorer le blason de la capitale du cuivre, terni par plusieurs antivaleurs. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Sachez aussi que Cédric Bakambu, la star congolaise du football, a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour l'agriculture et la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Cette distinction lui a été officiellement remise par le ministre de l'Agriculture lors d'une cérémonie organisée le samedi 22 mars à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Ben Chokuta était présent.
C'est une nouvelle qui résonne bien au-delà des terrains de football pour l'attaquant international congolais évoluant sous le maillot du Betis Séville en Espagne. Le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchai Moutombe, qui a présidé la cérémonie, a rappelé les défis à relever pour nourrir non seulement la RDC, mais aussi toute l'Afrique.
Cette année, avec l'appui de la sensibilisation qui doit commencer aujourd'hui avec notre ami Cédric, nous aurons une campagne merveilleuse et nous allons faire les champs qu'il faut pour que nous puissions nourrir notre pays.
De son côté, Cédric Bakambu, surnommé affectueusement Bakagol, par ses fans, a exprimé sa gratitude et sa détermination à relever ce nouveau défi.
J'accepte cette mission avec passion et détermination et je vais l'assumer avec tout le sérieux et l'engagement qu'elle requiert.
Le choix de Cédric Bakambu n'est pas anodin. À en croire son père, en plus de ses exploits sportifs, le footballeur est déjà impliqué dans plusieurs projets agricoles, notamment dans la province du Congo central, où certaines initiatives ont déjà porté leurs fruits.
C'est un très bon choix parce qu'il a déjà commencé à parler de l'agriculture du Congo avant même qu'il soit proposé. J'ai dit au ministre, Il a été inspiré parce que c'est un choix vraiment inspiré. Donc lui-même, il est là, il est très content.
Avec cette nomination, Cédric Bakambu devient un visage emblématique de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire en RDC. Un rôle qui, espérons-le, inspirera une nouvelle génération à s'engager pour le développement agricole du pays.
Plus de 2787 élèves en situation de handicap bénéficient d'un encadrement scolaire par des agents sociaux au sein de l'établissement Epe Libanga dans la commune de Kinshasa. Parmi eux, 1205 sont malentendants, 1509 ont un handicap mental et 49 sont atteints de surdité. À l'occasion de la Journée mondiale de travail social, la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza a rendu visite à ces enfants vulnérables pour manifester sa solidarité et encourager le personnel qui prend soin d'eux. Billy Yvan Lutumba nous parle de cet établissement d'enseignement spécialisé dans ce reportage.
L'Epe Libanga est érigée dans le site appelé Village Bondeko dans la commune de Kinshasa. Elle compte 4 cycles, notamment maternels, primaires, professionnels et secondaires. Pour amener les différentes catégories d'enfants sur le banc de l'école, le coordonnateur du centre Village Bondeko explique que ce sont les assistants sociaux qui font le porte-à-porte afin de convaincre leurs parents pour libérer leurs protégés aux fins de leur encadrement scolaire.
Vous voulez détruire une nation, commencez par détruire l'éducation. Ici, ce sont des enfants vulnérables. En tout cas, grand merci au nom de tous les personnels de notre structure, le village Bondeko, mais aussi au nom des enfants.
Le niveau maternel encadre deux types de catégories d'handicapés avec un programme mettant un accent sur la démutisation, un procédé basé sur des techniques visant à restaurer la capacité vocale chez l'enfant. Le second programme est orienté en faveur des handicapés mentaux pour une adaptation sociale. Les élèves du niveau primaire, où se trouvent de nombreux enfants sans aucune capacité auditive, suivent quant à eux un programme intégré axé sur la lecture labiale et la langue des signes. À leur côté sont aussi encadrés les élèves avec maladie mentale ou déficit intellectuel. Leur enseignement gravite autour des 4 secteurs spécifiques, en l'occurrence l'autonomie personnelle, la communication, la socialisation et l'occupation.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Cette province s'est fixé l'objectif d'exporter une tonne d'or par an grâce à la présence à Kindu de DRC Gold Trading. Le gouverneur qui le dit cependant met en garde les agents tant de services techniques que le service d'ordre et de sécurité. Moussa Kabouankoubi Moïse fait savoir que tout colis d'or qui sera retrouvé en état d'exportation sans passer par DRC Gold Trading sera saisi sans aucune quelconque forme de procès. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a donc pas de traçabilité concernant l'or d'Imanium. Cette situation devait impérativement changer dès aujourd'hui. L'objectif pour le Maniema étant d'arriver à exporter une tonne d'or par an, les mesures suivantes seront dorénavant être de strictes applications. Primo, il est strictement interdit aux services d'ordre et de sécurité de se transformer en protecteur des trafiquants d'or ne passant pas par l'entreprise du portefeuille de l'État qui est DRC Gold Trading. Secondo, aucun gramme d'or de production artisanale ne peut être exporté à partir d'Imaniema sans passer par DRC Gold Trading. Tertio, les services techniques des mines doivent travailler dans un esprit de collaboration avec DRC Gold Trading. Ainsi, tout agent ou cadre, tant des services techniques des mines que celui des services d'ordre et de sécurité, qui violerait une des mesures édictées ci-dessus, se verra être sanctionné sévèrement.
Retour au Tanganyika. Des crocodiles attaquent les habitants de villages situés aux abords des rivières Lukuga et Luizi, dans les secteurs sud de Lukuga, territoire des Nyunzu. Selon le chef des secteurs, ces prédateurs ont déjà fait plusieurs victimes, dont 3 morts depuis le début de l'année. Les autorités du territoire se sont rendues au village Luizi, à 65 km de Nyunzu centre, pour évaluer la situation. Écoutons Honoré Mwamba, chef de secteur de Lukuga, dont cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Ça fait plus de 2 mois que les crocodiles apparaissent dans ces contrées-là et ça a déjà attrapé plusieurs personnes dans la rivière Luizi. Dans la rivière Lukuga, ça a déjà attrapé au moins 3 personnes au cours de cette année 2025. Donc nous sommes venus pour s'acquérir de la situation, voir qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que l'État. Les trois personnes sont décédées, leurs corps sont introuvables jusqu'à maintenant. On a rencontré la société civile, on a rencontré la police, le service de sécurité qui sont sur place, nous avons rencontré, ils nous ont dit comment est-ce que ces crocodiles fait pour attraper les gens. Tout ça, nous avons pris bonne note. Nous sommes venus avec monsieur l'administrateur ATA Pollard pour nous acquérir de la situation afin que nous puissions au moins trouver une solution palliative.
Actualité internationale.
En Israël, le bras de fer entre l'exécutif et le judiciaire s'y poursuit après le limogeage du chef de renseignement intérieur. Un conseil des ministres spécial s'est réuni ce dimanche pour engager un processus de destitution de la conseillère juridique du gouvernement, également procureur général. Beaucoup accusent Benjamin Netanyahu de conflit d'intérêts, car le Premier ministre est visé par une procédure pour corruption. Dans une lettre, la procureure générale israélienne Gali Barav Miara accuse le gouvernement de vouloir se placer au-dessus de la loi et d'agir sans contrôle ni équilibre. Elle qualifie cette réunion du gouvernement portant sur sa propre destitution de dépourvue de validité juridique. Selon elle, l'objectif réel de la procédure est de fermer les yeux sur des conditions illégales prises par le gouvernement. Les ministres israéliens ont voté à l'unanimité le début de la procédure de destitution de la procureure générale. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui présidait la séance, a vivement déploré que Gali Barav Miara n'ait pas assisté à la réunion ni envoyé de représentants. C'est une preuve supplémentaire du profond mépris qu'elle manifeste envers le gouvernement et ses membres, a-t-il déclaré. Le cabinet israélien s'est réuni en l'absence du chef du gouvernement en conflit d'intérêts pour cette procédure en raison de son procès pour fraude, abus de confiance et corruption.
L'invité.
C'est le mois de mars, le mois de la femme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia Kabbala, une entrepreneure inspirante et directrice générale des Rainbow Poto Poto, une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire. Elle fabrique une bouillie nutritive et thérapeutique à base de céréales variées comme le maïs, le millet, le soja et le blé. Laetitia nous parle de ses défis et de son parcours. Ne manquez pas, en tout cas, son entretien avec Benjamin Moudoumbi. Suivez.
Bonjour Madame Laetitia Kabbala.
Bonjour.
Vous êtes DG de Rainbow Poto Poto, c'est là il y a 10 ans.
Exactement.
Et alors Madame, pouvez-vous nous raconter votre parcours et comment êtes-vous arrivée à devenir DG aujourd'hui?
Merci beaucoup pour la petite histoire. J'aime bien raconter cela aux gens parce que c'est comme ça que ça a commencé. Disons qu'après une longue maladie et pendant le confinement, et après, j'ai perdu tellement de poids qu'il fallait récupérer. Et il y a ma mère qui me disait souvent, lorsque tu perds du poids, tu n'es pas belle, tu es des grandes tailles et tout. Et pendant ces temps, je me disais comment faire pour trouver quelque chose qui puisse me faire récupérer rapidement. Parce qu'il faut le dire, il y a ces petites choses, mais qui nous font perdre confiance en nous-mêmes. Et là, je n'avais pas vraiment l'intention de créer quelque chose qui va commencer à aider plusieurs personnes encore à évoluer sur le marché. J'ai pu mettre sur pied cette recette en demandant aux aînés le mélange de soja, maïs, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que parce que j'étais à la recherche de quelque chose de nutritif et de très rapide? Et c'est comme ça que j'ai fini par avoir la recette. On m'a dit non, voilà, elle est très nutritive et thérapeutique. J'ai essayé. En essayant, ça m'a pas pris deux semaines, moins de deux semaines, j'ai sacrément récupéré. Et autour de moi, ça commençait à demander, que ce soit pour les enfants. Il y a des parents qui venaient me demander, mais comment est-ce que tu as fait pour récupérer? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Enfin, j'ai aidé les enfants du quartier, dans la parcelle, dans la famille, plus proche, ils commençaient à aider. Mais au fur et à mesure, ça commençait à devenir un peu de trop. Je me suis rendu compte qu'il y a un besoin qui naît et il y a un problème qui s'est posé. Et c'est comme ça qu'en 2022, après des moments de pharmacien, de coaching, être en relation avec des femmes entrepreneurs, et c'est comme ça qu'il faut me dire, mais Laetitia, tu ne penses pas que c'est un produit qui peut être profitable à plusieurs personnes? Je me suis dit, ok, on va essayer. Là, on essaye, on discute avec un aîné qui va me dire que voilà, il y a une bouillie qui existe. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu de trop? Alors je me dis, je vais quand même y aller avec ce que j'ai. J'ai commencé par créer Rainbow Poto Poto avec ma petite recette. J'ai trouvé le nom. Mais comme étant en relation avec des artistes, c'est comme ça qu'ils m'ont inspiré à trouver Rainbow Poto Poto pour Rainbow. Commencer, c'est l'arc-en-ciel, l'effet des différentes couleurs. Moi, je me suis dit de prendre Rainbow Poto Poto pour dire que la bouillie, elle est composée des différentes céréales, notamment le soja, maïs, le millet et le blé. C'est une bouillie qui est à la fois nutritive et thérapeutique, c'est-à-dire si vous pouvez la consommer comme le déjeuner, comme vous le prenez le matin, quand vous prenez du pain, mais il y a le côté thérapeutique pour les enfants en situation de malnutrition par exemple, qui n'ont pas pour deux personnes, des femmes qui allaitent également, pour des vieux aussi. Alors ça prend le côté thérapeutique, vous pouvez la prendre de manière régulière et elle va répondre à deux problèmes nutritifs et le problème thérapeutique.
Alors aujourd'hui dans le secteur agro-business, dites-nous les défis que vous avez rencontrés dans ces domaines d'activité, vous en tant que femme.
Alors je pense que les défis majeurs, tout premièrement, c'est être femme. Être femme, ça reste quand même un grand défi. Pourquoi? Parce que c'est l'agro-business, c'est assez différent avec d'autres secteurs. Par exemple, pour certaines personnes, verront que c'est un peu dans la saleté, quoi. Parce que quand on produit Rainbow, vous allez voir juste que c'est un produit déjà fini. Mais lorsque vous allez commencer dans le processus, il y a des côtés où vous devez faire des descentes, aller dans le marché. Parfois, si vous me rencontrez, vous n'allez pas vous dire que c'est la même Laetitia qui vous parle, donc elle ne ressemble presque à rien. Vous devez descendre dans le marché, trouver, transformer, griller. Et il y a une panoplie de difficultés qui sont liées premièrement au fait qu'on soit femme, transporter la charge. Des fois, il y a des zones où quand vous faites des achats, après les achats, il n'y a pas de transport. Et vous devez, des fois, moi-même, je le fais toute seule. Tu dois porter ça sur ta tête, effectuer de longs trajets. Et voilà, tout ça, c'est assez compliqué si vous n'êtes pas assidu ou que vous n'avez pas d'abord l'amour de la chose. Il est très probable pour certaines personnes ou certaines femmes de vite abandonner et laisser faire.
Madame Laetitia, quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes qui rêvent de s'élancer, comme vous?
Des femmes qui rêvent de s'élancer, moi, je leur demande que n'est pas seulement rêver, mais de se lever et réaliser le rêve. Parce que vous risquerez de longtemps rêver et ne pas réaliser le rêve. Le rêve, il faut le vivre, il faut quitter de son sommeil, il faut arrêter un moment de rêver, mais concrétiser.
Merci, madame.
Merci beaucoup.
Notre invitée, Madame Laetitia Kabbala, entrepreneur et directrice générale de Rainbow Poto Poto, s'entretenait avec Benjamin Moudoumbi. Ainsi s'achève ce journal de 18h sur Radio Capi. À la mise en onde, Alain Goy, coordination Jude Mystère Bilanda, supervision Alain Irong Moussinge, présentation Gisèle Cage. Pour suivre autrement le programme de Radio Capi, restez donc connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci de tout cœur pour votre fidélité à Radio Capi.